5 novembre, 500 ans de la Réforme, 5 solae, et du coup, 4 prédicateurs. Je ne vais pas aborder tout ça tout seul, et on s'est partagé le travail, et donc on va successivement intervenir sur ces points-là. Alors, revenons dans le contexte déjà, puisque en fait, ces solae représentent. J'ai pas la main. En fait, ces cinq solae représentent des croyances clés de la Réforme. Et ce sont des idées qui se sont construites en contradiction, en opposition avec l'Église catholique. Et ces affirmations réformées avaient notamment une idée clé, c'est que l'Église catholique était allée au-delà de ses prérogatives et enseignait des choses qui étaient faux et qui enlevaient à Christ, à la Bible, à l'Église et à Dieu lui-même la place qui leur revenait. Alors, pour être plus précis, ces solae, les réformateurs n'en avaient pas vraiment conscience. Ils ne parlaient pas des solae comme nous on en parle aujourd'hui. C'est assez récent de parler des solae comme ça. Désolé si ce matin on fait un petit peu de latin, mais bien sûr l'objectif c'est pas d'apprendre du latin, mais c'est une convention d'utiliser ces termes-là pour résumer ces idées clés. Alors, de la même manière, s'il y a des latinistes dans la salle qui pensent en latin, rêvent en latin, on s'excuse pour les erreurs de grammaire, puisque bien sûr, il y a certainement des prononciations qui ne sont pas justes. Premier de ces cela, sola gratia, la grâce seule. Et j'ai une question à vous poser, dites-moi, à quoi correspondent les phrases que vous voyez là? C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. C'est un chant qu'on connaît bien, on le chante souvent. C'est par la grâce, c'est un chant qui dit « C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. » Exactement. Et on peut en citer des dizaines, voire des centaines de ces chants qui parlent de la grâce, tellement c'est quelque chose qui est central dans notre expérience chrétienne. Si on se réfère à la parole, on voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, qu'il est écrit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et c'était une des découvertes extraordinaires de Martin Luther, de réaliser que son salut, sa réconciliation avec Dieu, était basée sur la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est le fait de mettre sa confiance en Dieu, de lui dire que nous croyons, que je crois, qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour être sauvé. Mais ce texte d'Éphésiens 2:8 ne s'arrête pas là. Il dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » On pourrait passer des heures à parler de ce passage parce que combien de fois dans notre vie on peut avoir tendance à considérer que Dieu nous doit des choses, que Dieu nous aime parce que nous avons fait ceci ou cela. Nous sommes venus au culte le dimanche, nous n'avons pas fait de grâce matinée, nous avons lu notre Bible dans la journée, nous ne sommes pas couchés sans avoir parlé au moins une fois à Dieu dans la journée. On pourrait multiplier les exemples ici. Cette phrase est tellement claire. Et c'est une vraie définition de ce qu'est la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne sans que nous ne le méritions. C'est ce que Dieu nous donne sans que nous n'ayons aucun effort à faire. C'est ce qu'on appelle une faveur imméritée. Quand une personne travaille 8 heures par jour et reçoit à la fin de sa journée un salaire, c'est ce qu'on appelle un salaire. Merci. Quand une personne participe à une compétition sportive et qu'elle gagne la compétition face à un adversaire, elle reçoit un trophée pour sa performance. C'est une récompense normale. Quand une personne est reconnue parce qu'elle a travaillé pendant 20 ans dans une entreprise et qu'elle reçoit la médaille française du travail, eh bien, c'est une récompense normale. Mais quand une personne n'est pas capable de gagner un salaire, qu'elle ne peut gagner aucun prix, qu'elle ne peut mériter aucune récompense, et que pourtant elle reçoit quelque chose, là, c'est ce qu'on appelle une faveur. Et c'est ce que Dieu fait envers nous, il nous donne cette faveur de nous aimer, cette faveur de pouvoir être réconcilié avec lui en envoyant Jésus-Christ. Dans un centre commercial, cette semaine, j'ai vu cette photo sympathique qui dit, donc c'est une publicité pour dire que dans le centre commercial, il y a du Wi-Fi. Ici, votre forfait ne déclarera jamais forfait. C'est ce que Dieu veut nous dire avec la grâce. La grâce est toujours abondante, elle est infinie et jamais elle tarira. Pour autant, la grâce est-elle bon marché ? Dietrich Bonhoeffer, avant la Seconde Guerre mondiale, s'est posé cette question et il explique, il a des phrases très fortes sur la grâce bon marché. Il dit, la grâce bon marché, c'est la grâce que nous nous conférons à nous-mêmes. La grâce bon marché, c'est la prédication du pardon sans la repentance. C'est le baptême sans la discipline d'église. C'est la communion fraternelle sans la confession de nos péchés. La grâce bon marché, c'est la grâce sans la croissance comme disciple, sans la croix, sans Jésus-Christ vivant et incarné. Et il oppose cette grâce bon marché à la grâce qui coûte, dont il dit, la grâce qui coûte, c'est le règne de Jésus-Christ dans ma vie, qui fait qu'un homme sera prêt à s'arracher un œil pour éviter de tomber et de déplaire à Christ. Là, c'est l'appel de Christ auquel le disciple répond et est prêt à laisser son filet pour le suivre directement. L'application de ce sola gratia, elle est simple, c'est d'être tellement reconnaissant à la fois pour tant d'amour que nous ne méritons pas, que Dieu nous accorde, et en même temps d'être plein de crainte parce que c'est un amour qui nous responsabilise parce qu'il est tellement énorme. Et je laisse la place à Benjamin.
Bonjour à tous. Alors c'est un exercice assez difficile que Colin nous a confié, de passer juste 5 minutes sur des thèmes aussi importants. Alors, sola scriptura. J'aimerais commencer en rappelant que toute vérité qu'on énonce, c'est une question d'autorité. En effet, c'est facile de dénoncer des vérités, c'est ce que Luther a voulu faire face à l'autorité de l'Église catholique. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il avait plus raison qu'eux sur certains points ? Et en fait, on est toujours obligé de s'en référer à une autorité. Ça peut être moi, mon autorité, ça peut être la science, une philosophie, d'autres personnes, l'Église catholique romaine. Du coup, comment faire au milieu de ce labyrinthe ? Alors, une toute petite illustration, imagine-toi que tu te réveilles un matin au beau milieu d'un labyrinthe. Tu ne sais pas où tu es, il y a plusieurs directions possibles. Il y a d'autres gens autour de toi qui sont tout aussi perdus. Et tu peux être certain que si toi tu vas vouloir aller être convaincu que pour sortir c'est dans cette direction, il y en a un autre qui va vouloir partir dans la direction contraire. Comment faire pour distinguer qui a raison et qui a tort ? Dans ce cas-là précis, ta seule chance, c'est si tu as un plan. Et que ce plan est juste et que ce plan est clair. Dans ce cas-là, tu pourras vérifier si tu as la bonne direction et en tout cas, finalement, choisir de suivre le plan. Et heureusement, c'est ce que Dieu a choisi de faire. Il nous a donné un plan, un guide, au milieu pour distinguer la vérité au milieu de tout ce qui se dit. Ce guide, c'est la Bible. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit Désolé Luther. Pourquoi choisir la Bible plutôt qu'autre chose? Alors, il y aurait des centaines de raisons qui nous poussent à croire que la Bible est vraie, qu'elle est fiable, qu'elle est parole de Dieu. J'aimerais simplement appuyer ça par un seul verset. Étant donné que Jésus, lui aussi, quand il était sur terre, il a été confronté à ce problème d'autorité. Les pharisiens venaient le voir et lui demandaient « Mais tu nous dis plein de choses, qu'est-ce qui nous dit que tu as raison ?» Et dans Jean 5, il leur répond « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Et là, en fait, on voit que Jésus place un lien très fort, voire une équivalence entre croire ses paroles, le croire lui, et croire l'Ancien Testament et l'ensemble de la Bible et des Écritures. C'est pas si surprenant que ça quand on y réfléchit, vu que la Bible, c'est ce que Dieu nous dit, c'est la parole de Dieu, et Jésus est décrit lui-même comme la parole de Dieu. Donc, tout ça, ça nous pousse à placer la Bible comme autorité pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la parole est claire et qu'elle nous permet de distinguer ce qu'il y a à prendre ou à laisser dans une doctrine, eh bien c'est ce qui permet à Luther de prendre position contre les papes, les conciles, comme il l'a dit. Et c'est ce qui nous permet à nous aussi de prendre des distances par rapport à certaines autres choses que certains autres points sur lesquels Luther a pu se tromper. On n'est pas d'accord avec Luther sur tout, enfin, j'espère. Et le fait de placer la Bible comme autorité au-dessus de tout ça, c'est ce qui nous permet de rester dans la vérité de Dieu et de ne pas suivre simplement des préceptes humains, la science, nous-mêmes. La Bible est beaucoup de choses. Donc, on l'a dit, on pense qu'elle est parole de Dieu. Il aurait pu choisir plein d'autres moyens pour se révéler à nous. Il a choisi cette écriture qui nous a été transmise. On pense qu'elle est vraie, qu'elle est claire, que dedans on trouve tout ce qu'on a besoin pour notre salut, pour connaître Dieu, pour connaître Jésus. C'est une chose de croire tout ça. J'aimerais simplement te laisser ce matin avec deux petites questions. Si tu crois tout ça, est-ce que tu agis en conformité par rapport à la parole? Combien de temps tu passes par jour, par semaine, par mois à étudier cette parole qui sauve, cette parole qui est parole de Jésus, parole de Dieu, et qui est si importante? Une deuxième question pour savoir est-ce que la Bible est vraiment ce qui fait autorité sur ta vie, c'est quand tu trouves dans la Bible, et ça arrive parfois, des choses qui nous remettent en question, qui nous dérangent, on aimerait peut-être que ce soit absent et que ce ne soit pas écrit, comment est-ce qu'on réagit? En fait, dans ces cas-là, il y a souvent deux possibilités. Soit on se dit, bah, finalement, ça s'applique peut-être pas à moi, ou on est en 2017, c'est plus vraiment d'actualité. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas la Bible notre autorité. Ça veut dire que c'est moi-même qui choisis de dire ce qui est bon ou mauvais à prendre dans la Bible. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. La deuxième possibilité, c'est de se dire, la Bible, elle sait, la parole de Dieu, elle sait mieux que moi ce qui est bon ou pas, et donc je vais l'écouter. Je voulais vous laisser avec une citation de quelqu'un de connu sur la Bible. Je pense à Luther, en fait, ou simplement vous laisser avec deux versets du psaume 139, parce que la Bible finalement... 119, merci. Il y en a qui suivent. La Bible dit tout ce qu'il nous faut savoir sur elle, il n'y a pas besoin de trouver des citations d'autres personnes. Ta parole est entièrement pure, ton serviteur l'aime. Ta justice est une justice éternelle, ta loi est la vérité. Amen.
La grâce seule, la parole seule, la foi seule. Une citation, selon le théologien Henri Blocher, le message chrétien dans sa pureté est la proclamation par la parole de la pure grâce de Dieu, accessible par la foi seule. Nous ne sommes pas sauvés en nous soumettant à des rites ou des œuvres, mais par une démarche d'adhésion complète à Jésus-Christ qui s'appelle la foi. Si la grâce émane de Dieu et descend vers nous. La foi qui est déposée en nous par l'Esprit de Dieu monte de nous vers Dieu. En rapport à la foi, certains évoquent des objections à la vraie foi, et tentent ainsi de la vider de sa force. Par exemple, on entend dire que la foi est naïve, sans fondement solide, un saut dans le vide. Ou bien alors, on entend aussi, la foi est insuffisante. Il faut y ajouter une contribution personnelle pour mériter le salut. Affirmer cela, c'est d'une part que la foi biblique est fondée, ignorer que la foi biblique est fondée sur un témoignage solide, digne de foi, la parole de Dieu, et d'autre part ignorer combien de manière tranchante et sans objection possible, l'Écriture écarte la pensée d'un salut qui trouverait son origine dans les œuvres humaines. Ce que nous proclamons par la Bible, c'est la suffisance de la foi pour le salut. Autrement dit, la foi en la grâce de Jésus-Christ est suffisante pour le salut. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas non plus par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, qu'est-ce que la foi au sens biblique? Est-ce de la pensée positive? Est-ce un sentiment? Est-ce une affiliation à une église? Est-ce croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Est-ce de la confiance? Est-ce de l'espoir? Ou bien s'agit-il de quelque chose de plus grand? Il existe un verset de la Bible qui nous donne la définition de la foi. Hébreux 11, 1, 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous pourrions traduire et dire que la foi est une certitude du cœur qui débouche sur une attitude de confiance absolue en Dieu, sans besoin de démonstration physique ou visible, quelle qu'elle soit. Si vous avez une foi authentique de chrétien, alors vous n'avez pas besoin d'en rechercher une démonstration intellectuelle humaine. Vous possédez déjà cette démonstration. Dieu lui-même, en effet, par Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, est la démonstration par excellence qu'il accomplira ce qu'il a promis. Une petite illustration concernant la foi, tirée de la Bible, Exode 14, les versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Face à la barrière de la mer et acculé par l'armée des Égyptiens, pensez-vous que Moïse a fait appel à toute sa capacité de raisonnement? Pensez-vous qu'il a eu le temps ou le droit d'exiger de Dieu une démonstration visible pour accepter ce que Dieu était en train de lui dire et de lui promettre? Moïse a dû faire appel à sa confiance totale en Dieu, en sa foi en Dieu. Il n'y avait rien d'autre à faire. La foi était tout aussi incontournable qu'irremplaçable. Mais ce ne serait pas complet, ni juste, si je ne précisais pas que Moïse avait, à ce moment-là, une expérience personnelle, intime, avec Dieu. Comme une démonstration qui a nourri sa foi tout au long de sa vie et qui lui a permis non seulement de posséder la foi profonde, mais également de faire grandir, de la faire grandir et ainsi rendre sa foi efficace au quotidien. La foi seule pour le salut. La foi seule pour la marche chrétienne. Nous sommes invités à marcher non par la vue, mais par la foi. Premièrement, décider d'avoir chaque jour un moment d'intimité avec Dieu par sa parole et la prière pour faire progresser notre foi. Cela doit se passer chez soi. Deuxièmement, décider de partager cette intimité avec Dieu en compagnie des frères et sœurs de l'Église pour nourrir ma foi. Cela se passe à l'Église. Objectif personnel, faire grandir ma foi sans laquelle rien de spirituel ne m'est réellement accessible et sans laquelle il m'est impossible d'être agréable à Dieu.
Solus Christus signifie Christ seul. C'est donc une expression qui définit l'exclusivité de Christ, de son sacrifice sur la croix, dans l'œuvre du salut. Ça signifie Christ seul ou en Christ seul. Pour illustrer cette vérité, on peut lire dans Galates chapitre 5, 2 à 4. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc j'ai 5 minutes pour vous parler de la justification des péchés en Jésus-Christ. Accrochez-vous. Donc, pour mettre un peu de contexte, l'église des Galates, c'était une des premières églises qui était fondée en Asie mineure, et elle rassemblait des juifs et des païens, donc des gens issus du monde romain ou grec, et des gens issus du monde juif d'Israël. Et durant la croissance de cette église, des faux prophètes ou des faux frères, comme Paul les appelait, sont venus dans l'assemblée et ont commencé à prêcher un autre évangile. Ils ont prêché un évangile qui était faux. Et cet évangile, c'était « Si vous respectez certaines choses de la loi hébraïque, vous êtes sauvés ». Certes, il y avait d'un côté cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ qui sauve, et il y avait de l'autre côté ces faux frères qui disaient « Il y a un autre moyen pour justifier ses péchés ». Et voilà ce que Paul leur dit. Donc la circoncision, ça faisait partie de cette loi. Et voici ce que Paul leur dit. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voilà. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Autrement dit, il ne sert à rien de croire en la justification de Christ si on cherche à la gagner par nos propres moyens, si on cherche à porter la justification sur nos propres épaules. Ce qu'il dit là, ce ne sont pas des rites religieux qui sauvent, ce n'est pas toutes nos bonnes actions, ce ne sont pas tout ce qui nous fait paraître pur devant Dieu qui nous sauve. Mais c'est l'œuvre unique, nécessaire et suffisante de Jésus-Christ sur la croix. Du temps de la Réforme, l'Église catholique offrait d'autres moyens de salut. On l'a vu, il y avait les indulgences, il fallait payer pour se faire pardonner nos péchés temporels. Il y avait d'autres intercesseurs, il y avait Marie, il y avait Sainte Anne aussi à l'époque de Luther. Quand Luther a vécu cette fameuse expérience de la foudre qui a failli le tuer, il s'est adressé à Sainte Anne. Il a prié, « Sainte Anne, sauve-moi, je vais devenir moine. » Et voici ce qui a ensuite poussé les réformateurs à réaffirmer l'exclusivité de Christ dans l'œuvre de notre salut en tant que médiateur avec le Père. Et pour les Galates, c'était la même chose. Il y a eu la loi qui s'est mise entre eux et Dieu. La loi comme moyen pour se justifier devant Dieu. Même si c'était 1%, c'est juste se faire circoncire et on a Jésus-Christ. Non, Christ ne nous servira de rien. Il dit plutôt dans Galates 3, Paul dit, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car elle est écrit « Maudit et quiconque observe, qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Est-ce que dans notre vie, on serait capable nous-mêmes d'observer tout la loi et de prendre ça sur nos épaules? Ce serait comme dire « Seigneur, attends-moi là, je reviens, j'ai ce péché dans ma vie qui est tellement fort, qui est tellement profond, attends-moi là, je vais le régler. » Et quand je reviendrai, je pourrai recevoir ton salut. Parfois, on est tenté de dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est trop impur pour Dieu. On est trop borné, on est trop têtu. On est tenté de dire, j'ai trop péché et je dois vaincre mon péché avant de venir vers Dieu. Mais seul Jésus-Christ est digne de prendre ce péché, de nous pardonner les péchés, et il est le seul qui peut nous justifier. Paul dit à ce sujet, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Si nous sommes en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous ne sommes plus esclave du péché. Le péché n'est plus notre maître. Ayant été esclave du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Sachant cela, est-ce que notre ancien maître, le péché, a disparu? Loin de là, notre ancien maître cherche toujours à nous récupérer et il est plus fort que nous. Mais il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Il s'agit donc de marcher par l'esprit de vie. L'esprit de vie en Jésus-Christ, et Dieu produisant en nous le vouloir et le faire, sachant cela, nous pouvons nous jeter avec confiance dans le combat contre le péché, en ayant en nous les désirs de l'esprit plutôt que ceux de la chair, en s'affectionnant aux choses de l'esprit plutôt qu'à celles de la chair. Pour résumer, nous ne sommes pas capables d'acquérir notre salut par nous-mêmes. Jésus-Christ est le seul digne, capable de nous justifier devant le Père. Il est le seul médiateur qui soit nécessaire, suffisant et dont l'œuvre est complète. Et troisièmement, si nous sommes en Christ, il nous libère. Nous sommes libres de la loi du péché. Nous avons ce choix entre le péché et la vie. Et il nous permet ceci par son esprit, l'esprit qui est en nous. Et nous pouvons trouver le repos en lui. Martin Luther était terrifié, même après une vie parfaite de moine, une vie sans péché, en tout cas ce qu'il pouvait faire, il était quand même terrifié par la colère de Dieu. Et c'est en découvrant l'Évangile qu'il a pu être libre du péché. Amen.
Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu, avec un L, ou encore, à Dieu seul soit la gloire. Question, à quoi correspondent ces paroles? Vous reconnaissez ce chant? À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Et le refrain dit, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. C'est un extraordinaire chant de triomphe et d'adoration de celui qui mérite toute la gloire. Qui est l'auteur de ce chant ? Eh non, c'est pas Luther. Justement, je me suis posé la question. Et, petite recherche, l'auteur, en fait, c'est un Américain qui s'appelait Doan et qui est mort en 1915. C'était en fait un industriel qui a dirigé plusieurs entreprises dans sa vie et qui les a fait prospérer et qui a plutôt bien réussi. Un industriel qui a su gérer ses affaires et puis qui a su aussi utiliser son temps libre. Doan, sur son temps libre, a écrit pas moins, ou a composé pas moins de 2000 cantiques. 2000 cantiques. À tel point que la plupart des chants, notamment du recueil « À toi la gloire », sont composés en tout cas par ce Doan. « Plus près de toi, mon Dieu, dans les cieux et sur la terre, redites-moi l'histoire, ou encore « Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur, travaillons et luttons », qui est bien un cantique, c'est pas... Et tous ces chants ont été écrits par... Toute la musique de ces chants a été composée par Doan. C'est un gars qui expliquait que quand en fait il avait... on lui donnait des paroles sous les yeux, il se mettait au piano, et blim, c'est parti. Naturellement, la musique venait, et très rapidement, il était capable de composer un chant. Ce qui est très intéressant dans nos recueils français, c'est que le nom de Doan apparaît à côté du nom du traducteur du chant en français. Mais en réalité, toutes les paroles de ces chants ont été écrites par une femme qui s'appelait Fanny Crosby. Alors Fanny Crosby, on la surnomme la reine des cantiques. Pour une raison très simple, Fanny Crosby, elle a beaucoup travaillé avec Doan, ils sont morts d'ailleurs la même année, en 1915. Fanny Crosby était en fait une Américaine missionnaire, elle était aussi poète, elle écrivait des chants, et puis elle composait aussi de la musique. Et elle est retenue pour un fait assez particulier, c'est que si Doan a composé 2000 cantiques, Fanny Crosby en a composé et écrit 8000. Tous les chants que je vous ai cités avant, « Plus près de toi mon Dieu, dans les cieux sur la terre, à Dieu soit la gloire », les paroles ont été écrites par Fanny Crosby. 8000 chants écrits au cours de sa vie. Avec un petit handicap de départ, elle était aveugle de naissance, enfin aveugle juste quasiment à la naissance. Donc une femme aveugle, un industriel certainement bien occupé par son travail, mais eux deux, 8000 cantiques, 2000 cantiques, Dieu sait utiliser ceux qui souhaitent se mettre à son service et quelles que soient les circonstances de leur vie. Alors, ce qui est marrant, c'est que Fanny Crosby, elle a écrit tellement de chants qu'en fait, les éditeurs de chants se sont dit « Non, mais c'est pas possible, on peut pas publier tous ces chants, sinon ça va faire un peu une sorte de pape des cantiques. » Donc en fait, elle utilisait des homonymes, des pseudonymes. Elle avait 200 pseudonymes différents pour faire publier ses chants, de telle sorte que... ce qui est extraordinaire, et là où on peut dire « Soli Deo Gloria », c'est que aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, il y a un temps de réveil extraordinaire où l'évangile est annoncé et où des dizaines de milliers de personnes découvrent Jésus-Christ, l'acceptent comme leur sauveur et lui donnent sa vie. Ce réveil, il est provoqué notamment par deux grands prédicateurs qui s'appellent Finney et un autre qui s'appelle Moody. Et certains disent que la puissance du message annoncé par Moody et Finney s'explique uniquement grâce à tous ces chants qui ont été composés à cette période-là. Et vous voyez à quel point il y a une sorte de conjonction d'événements, à la fois des auteurs de chants prolifiques, des prédicateurs hors du commun, et Dieu a utilisé toutes ses compétences et tous ses dons pour que son royaume avance et que des personnes passent des ténèbres à la lumière. Et quelque part, c'est aussi ce que Dieu a fait à la réforme avec des personnages comme Martin Luther, comme Calvin et comme bien d'autres, Farel, Zwingli, etc. Et il sait comment arriver à ses fins. Et c'est encourageant, ça nous donne envie à la fois de reconnaître qu'il est l'auteur de toutes choses, qu'il tient tout entre ses mains, et qu'au final, c'est lui qui va faire exploser notre cœur de reconnaissance, d'émerveillement et d'adoration devant ce qu'il a fait. Il nous le montre aussi à travers la création, notamment cette période, et le feu d'artifice. Il se voit aussi dans la nature. Ce qui nous encourage avec cette phrase du psaume, et je vous laisse ça en application, le psaume 71:14, « Je te louerai de plus en plus. » 5 novembre, 500 ans de la réforme, un encouragement à louer Dieu toujours plus. On en reparle dans 500 ans, lorsqu'on sera au ciel en train de louer notre Dieu, depuis déjà quelques centaines d'années. J'ai conscience que ce qu'on a transmis ce matin était dense, beaucoup d'informations, on aurait pu faire passer un dimanche par cela. La réalité, c'est qu'en fait, on pourrait même poursuivre, parce que certains aujourd'hui trouvent qu'on devrait ajouter deux autres sola. Le sixième, ce serait sola ecclesia, une seule église, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et puis le septième, sola caritas. Caritas comme charité, l'amour, un seul amour, tel que Dieu l'exprime pour nous. Mais bon, comme le temps passe et puis que le culte arrive à la fin, on reviendra là-dessus peut-être une autre fois. Voilà. Juste, on profite d'être là pour une petite annonce pour terminer. Guy, tu permets ? D'accord. Donc avec Ruth, on est heureux de vous annoncer qu'on attend un petit garçon pour février 2018.